Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors,
je t'ai pas trop manqué la semaine dernière?
Si, absolument. D'autant mais... plus que j'avais oublié les notes que j'avais bien préparées
ça,
à la
gênant.
Maison.
Donc mais
j'ai
des
improvisé.
Musiques.
Et j'avais des musiques, j'ai toujours des musiques dans mon sac.
Ah.
Et j'ai improvisé. Et j'ai improvisé sur le thème des écrivains yiddish à Paris, ce qui est un thème qui va devenir aussi le thème de notre prochain concert.
Yiddish à Paris.
Yiddish à Paris, voilà. Donc c'est... Effectivement, il y a des chants et il y a des écrits. Oui, parce qu'il faut savoir que Paris a été pendant un moment un centre yiddish relativement important, surtout entre les deux guerres, parce que il y avait beaucoup d'immigrants d'Europe de l'Est qui venaient à Paris, ceux qui n'étaient pas allés aux États-Unis, il y en a pas mal qui sont venus à Paris. Et il y a aussi beaucoup d'écrivains qui sont venus à Paris, soit pour y rester, soit pour passer... voilà, donc il y avait vraiment une vie de yiddish extrêmement vivante à Paris. Il y avait même le journal Heint, le directeur du journal Heint qui a créé une branche à Paris. Donc tout ça s'est bien développé jusqu'à ce qu'évidemment la guerre y mette fin avec, comme je l'ai rappelé la dernière fois, la mort, la déportation de pas mal d'écrivains. Certains très peu connus parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire beaucoup, et d'autres plus connus. Voilà, donc ça, j'en ai parlé la dernière fois. Et donc, une des personnes qui est passée à Paris et qui est, comme vous le savez sans doute, une de mes écrivaines favorites, c'est Kadia Molodowski. Donc, Kadia Molodowski, j'en lis depuis très longtemps. Donc, j'avais commencé par son poème Fredske, et puis ensuite, nous avons traduit avec un groupe... les petites histoires, les Maïs-Seller. Et puis là, nous sommes presque en train de terminer son autobiographie, où elle raconte évidemment les événements de sa vie. Voilà, donc pourquoi Kadia Molodowski? Parce que c'est d'abord une femme, et puis c'est une des rares femmes qui a vraiment écrit toute sa vie et qui a eu aussi la chance de vivre longtemps, puisqu'elle est partie aux États-Unis en 1935, ce qui était vraiment le bon moment de partir aux États-Unis. Donc, quelques éléments. Donc, elle est née en 1894 à Kartouche-Bereza, qui est un shtetl en Biélorussie. Son père est un enseignant, mais c'est aussi un enseignant juif, un melamed, mais c'est aussi un rationaliste, sioniste. C'est une famille de 5 enfants, 2 sœurs plus âgées, une plus jeune et un frère. Et elle va très jeune avoir une éducation très complète avec l'enseignement traditionnel. Donc, elle connaît l'hébreu biblique. Et puis, il y a aussi des professeurs qui lui donnent des cours d'histoire, de russe. Et elle va même passer le bac russe, puisqu'à l'époque, toute cette région est sous l'Empire et dans l'Empire russe. Et en 1913, elle va partir à Varsovie dans une institution dirigée par Yuriel Alperin, qui forme des enseignants d'hébreu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours pratiqué de façon parallèle l'hébreu et le yiddish, même si elle a seulement écrit en yiddish. Hein. Donc, en 1917, il y a la révolution et qu'elle passe à Kiev. Elle échappe, heureusement, au grand pogrom qu'il y a eu en Ukraine à l'époque. Et elle revient, elle revient à Varsovie après la guerre, en 1922. Et elle va tout le temps éditer, écrire des poèmes, tout en enseignant. Donc, elle enseigne l'hébreu et le yiddish dans 2 écoles différentes, dont l'une est celle du Bund. Et puis, elle écrit quand même des poèmes. Pendant ce temps-là, donc elle s'est mariée en 1921. Elle épouse un journaliste qui s'appelle Simch Lev. Et ce journaliste va partir à Paris, faire des études et aussi travailler comme Zetzer, ça c'est typographe, voilà. Donc, elle vit à Varsovie et elle vit péniblement en travaillant beaucoup et elle lui rend de temps en temps visite. mais de façon courte. Elle ne s'est jamais installée à Paris. Et donc, elle va écrire donc plusieurs poèmes sur Paris, dont je vais vous lire des extraits. Et elle fait paraître plusieurs recueils de poèmes qui la rendent relativement célèbre, connue. En tout cas, en 1935, elle va être invitée à Paris, non pas à Paris, aux USA, pardon. Elle est invitée aux USA par Lippe Lehrer, le directeur de la maison d'édition Matones. Et elle a déjà son père et ses deux sœurs qui vivent déjà aux USA. Sa mère est décédée assez tôt, juste après la Première Guerre. Et donc, elle continue à écrire. Son mari la rejoint en 1938. En 1943, elle fonde une revue, Svive. Et après la Shoah, elle va publier des textes sur la Shoah. Et elle va aussi passer quelque temps en Palestine. Enfin, oui, ce n'est plus la Palestine, c'est déjà l'État d'Israël, hein, puisqu'elle y va en 49. De 49 à 52, ils vivent tous les deux en Israël. Et ils reviennent ensuite aux États-Unis, où elle va continuer à écrire. Et elle va écrire en particulier son autobiographie, dans sa revue qu'elle a fondée de nouveau, qui s'appelle Svive. Svive, ça veut dire entourage. Donc, de mars 65 à avril 74, elle fait paraître en feuilleton, si on peut dire, son autobiographie, ainsi que des textes de toutes sortes d'écrivains. Ce serait vraiment une revue à étudier, puisque un des textes que moi j'aime beaucoup, c'est Zeidlous der Erster, donc le pape Zeidlous de Bachewitz-Zinger, sur lequel j'ai fait toute une étude, paraît dans la revue Svive. Son mari est décédé en 1974, elle-même donc arrête sa revue en avril 1974, elle va déménager à Philadelphie, où vit sa famille, et elle décède en mars 1975. Voilà, donc après cette revue de la, si je puis dire, ce panorama de la vie de Katia Malowski, on va écouter
particulièrement intéressante, elle a traversé les continents.
Voilà, c'est quelqu'un qui a traversé le ciel, qui a traversé les continents et qui n'a jamais cessé d'écrire, ce qui est assez rare pour les femmes. Hein. C'est-à-dire les femmes arrêtent d'écrire soit parce qu'elles ont des enfants, soit parce que les conditions sont trop difficiles, soit parce que malheureusement elles disparaissent dans la Shoah. Et donc, il y a quelques femmes qui ont écrit, mais beaucoup plus d'hommes. Hein. C'est-à-dire, il y a les grands écrivains très connus, Schlesinger, bien sûr, mais aussi Yehuda Trunk, des gens qui ont vraiment pu écrire, ou Zeitlin, Aaron Zeitlin, qui ont commencé à écrire très jeune et qui ont écrit toute leur vie, qui ont une œuvre énorme. Et peu de femmes. Mais effectivement, Katia Malowski, en plus, bon, c'est une œuvre très intéressante, hein, à part qu'elle est longue et diverse. Elle est très intéressante, les poèmes sont très beaux. Son autobiographie aussi très intéressante, parce qu'elle donne vraiment un panorama de la vie juive, d'abord en Pologne, ensuite en Ukraine, et après aux États-Unis aussi, vraiment c'est très très intéressant.
Il faut trouver un éditeur pour ça. Ça, c'est un autre problème.
Alors oui, nous sommes en train d'essayer de chercher, d'auto-éditer le poème Friedke, dont j'ai déjà parlé, je crois. Friedke raconte la vie d'une ouvrière à Varsovie pendant que son mari est à Paris. Hein, donc c'est vraiment inspiré de sa propre vie, à la différence que cette ouvrière, donc, qui s'appelle Friedke, a une petite fille qui s'appelle Reisele, alors que Katia Malowski n'a pas eu d'enfant. Et donc, c'est cette vie parallèle qu'elle décrit entre Paris et Varsovie, qui est un très très beau poème que nous avons traduit avec notre groupe, là, dirigé par Liliane Brovert. Et j'espère qu'on va faire une édition, on va même faire peut-être une édition bilingue, parce que ça mérite vraiment d'être lu en yiddish. Voilà, ça c'est nos projets, et peut-être aussi un jour d'éditer l'autobiographie, parce que, à part quelques poèmes qui sont traduits dans Miroir d'un monde, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, de Dobzhinsky,
qui date déjà, tout n'est pas irréprochable.
Non, alors, non, absolument pas. Ce livre a le grand mérite de faire vraiment, de donner vraiment une idée assez complète des écrivains et surtout des poètes. Oui, ce sont les poètes, hein, des poètes juifs écrivant en yiddish, hein, et c'est vraiment une œuvre très précoce. Et les introductions sont très intéressantes, les traductions sont effectivement pas toujours très bonnes, et puis évidemment, c'est très... Il y a très peu de choses de chacun, bien sûr. Mmh. Mais elle est dans ce recueil. Mais à part ça, je crois que rien n'a été traduit. Hein, mmh. Donc, c'est vraiment intéressant de,
ouais.
de traduire.
Et l'autobiographie, en particulier.
L'autobiographie aussi. L'autobiographie est assez...
Elle a pu la terminer ?
Non, alors elle ne l'a pas terminée. Mmh. Ça s'arrête pendant son voyage en Israël. Donc, on est dans les années 50. Ouais. Hein. Donc, ça s'arrête effectivement très brusquement. Justement, là, je viens de demander à Natalia pourquoi ça s'arrête comme ça au milieu. Et en fait, oui, je crois qu'elle a arrêté toute la revue. Elle a dû faire paraître la dernière revue, je crois que c'est avril 1974. Bon, elle était déjà elle-même très affaiblie. Son mari venait de mourir. Elle avait quand même presque 80 ans. Mmh. Et donc, ça s'arrête comme ça. Elle n'a mmh. pas, elle a pas terminé.
Parce qu'elle est morte, tout simplement.
Oui, tout
malade,
simplement.
D'abord malade,
oui,
affaiblie.
Alors, bon, il est assez dangereux pour les écrivain yiddish d'écrire leur autobiographie. Bon, je vais peut-être faire une émission là-dessus. Tous ceux qui sont morts juste en ayant commencé d'écrire leur autobiographie. Bon, elle avait fait plus que commencer, ah ouais. mais il y en a pas mal qui sont...
Cette malédiction ne frappe que les écrivains yiddish, pas les Français ou les Américains?
Ah ben, il faudrait voir, c'est une bonne question, effectivement. En tout cas, les écrivains yiddish, c'est très dangereux. Ah,
bon, voilà. Alors, ne le faisons jamais, ne n'écrivons pas notre autobiographie. Donc, voilà, je voulais faire entendre un poème mis en musique, donc de Kadia Molodovsky, qui s'appelle Tfile, prière. Alors dans cette très bonne édition, pour le CD et pour la plaquette qui l'accompagne, qui est vraiment très très bien, le livret. Donc c'est Chava Halberstein, la fameuse Chava Halberstein. J'ai dû faire entendre déjà des extraits de ce disque qui, sous le titre « L'aime-le, petit agneau », a recueilli des poèmes de différents auteurs. Il y en a deux de Kadia Molodovsky, il y a l'inévitable Itzik Manger, il y a un autre auteur qui s'appelle Binham Heller, il y a Papirnikov, il y a d'autres gens, Avrum Reisen, Manny Leib. Ce sont tous elle a pris des poèmes, des textes qui existaient mais qui n'avaient pas été mis en musique. Et c'est elle qui en a inventé les mélodies et qui en a fait les arrangements avec une équipe, et ça donne un très très beau disque, très nostalgique, plutôt triste, mais de très très grande valeur, et c'est ça que nous allons essentiellement utiliser pour le spectacle qui s'appelle Yiddish à Paris, parce que pour beaucoup, ces écrivains-là sont passés par Paris, soit comme tu le disais avant, longuement, soit brièvement, soit... Voilà, on a pris un petit peu ce fil conducteur. Donc on revient à Kadia Molodovsky, ce poème s'appelle « Prière », dont je vous lis la traduction qui figure dans le livret, parce que dans ce livret, il y a les textes en yiddish, en caractère hébraïque, traduit en hébreu, en caractère hébraïque, puis la traduction en français et la traduction en anglais. Ce qu'il n'y a pas, c'est la translittération pour que les gens qui ne savent pas lire en caractère hébraïque puissent la chanter. Mais ça, on ne peut pas tout avoir. Prière. Nuit, ouvre-moi un berceau, comme pour le malade, à son heure la plus pénible. Nuit, couvre-moi de ton silence, comme pour le plus exténué à la fin du jour. Nuit, saoule pour moi par l'oubli, comme pour le portefaix sous sa large charge. Nuit, assombrit les vitres pour un pécheur honteux pendant sa prière. Nuit, protège-moi, cache mon découragement de ce jour.
Nacht, spreit euch vor mir a Wiegel, wie vor a Kranken in sein schwerster Schor. Nacht, deck mich ein mit dein Stillkeit, wie de müdesten Mieden vor dem Umwurf und Tor. Nacht, trink mir schon mit Vergessen, wie dem Träger dem Schwersten von die Lasten ohne Wog. Nacht, verschieden. Vor bitter verschämten Mitten hat viele zu gut. Nach sei mich Matzil, verstell mich, und ich schüffelst der Schof von dem Tod.
Chava Halberstein.
Alors, Chava Halberstein aussi, qui est entre l'hébreu et le yiddish, et qui n'a jamais fait de différence, et qui est vraiment...
Tout à fait. Je l'ai dit une des dernières fois, elle a enregistré un nombre d'albums impressionnants. Maintenant, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est genre 50. Incroyable. Elle chante aussi en anglais, mais surtout en hébreu et en yiddish. Et elle fait connaître, en hébreu aussi, des auteurs moins connus. Et elle met en musique, et quelle activité tout au long de sa vie. Elle est vraiment formidable. Et cette voix, et cette fluidité dans le... Dans la prononciation,
il y a rien. Oui, tout est juste. C'est très très beau. Alors voilà, donc là vous avez effectivement dans cette file, donc prière, l'exemple du côté triste de Katia Molodowski, qui toute sa vie était mélancolique et elle avait des moments vraiment de désespoir, dû à sa vie difficile, mais dû aussi à son caractère. Hein, je veux dire, c'était toujours... Le seul moment où elle est assez joyeuse, c'est quand elle arrive aux États-Unis. Elle arrive aux États-Unis, et là, tout l'étonne, tout la surprend. Mmh. Et puis, là, il y a quelques textes qui sont vraiment humoristiques. Par exemple, sur le fait qu'en Amérique, on a plusieurs robes, parce que bon, elle a qu'une robe. Qui est rapiécée, et sa sœur se moque d'elle et lui dit « Mais il faut qu'on t'achète tout de suite des vêtements, sinon on va croire qu'on est des pauvres et tout ça. » Elle trouve ça assez amusant, et d'ailleurs elle continue à porter ses robes rapiécées, et puisque c'est ce qu'a raconté sa nièce, elle a une nièce qui doit maintenant être décédée, mais quand elle arrive aux États-Unis, donc en 35, elle a une petite nièce qui a 7-8 ans, qui lui apprend l'anglais, et avec qui elle va garder toute sa vie des bonnes relations. Et cette nièce dit oui, Katia Molodowski s'en fichait de ses vêtements, elle, ça ne l'intéressait pas. Et là, il y a des passages assez drôles. Mais d'habitude, elle est plutôt triste. Voilà. Donc, je vais vous lire justement des poèmes un petit peu dans cette veine. Donc, c'est ma traduction, hein, d'après des textes en yiddish, évidemment. Mannequin, Je suis éternellement inguérissable, éternellement. Que faut-il de plus ? Paris est bruyante et poussiéreuse, et quand les tramways hurlent sur leurs rails, que les automobilistes grognent les unes contre les autres, j'ai l'impression que des vents hurlent à l'aube sur les toits et que des chiens aboient dans des cours non-juives. Il est difficile ici d'aimer un être humain, de reconnaître un être humain, quand plus aimable et plus affectueux que tous, les mannequins sourient dans les vitrines. C'est devant eux, peut-être devant leurs yeux bienveillants, que doit s'incliner la clocharde de 60 ans et qu'elle doit mendier un lit pour la nuit. Alors, peut-être un homme de caoutchouc l'entendra et ouvrira dans la vitrine une porte brillante. Voilà, donc ce thème aussi des vitrines brillantes, ça c'est aussi... Je crois que ça frappe aussi en venant de...
Oui, ça apparaît dans ces années-là, pour être spécifiquement américain, les belles vitrines, les mannequins, souriants.
Oui, mais là,
souriants.
On est à Paris.
Ah, c'est Paris.
Là, c'est encore Paris. Oui, c'est encore quand elle est à Paris. Et c'est vrai que c'est certainement plus moderne que Varsovie, par exemple, bien sûr. Hein, donc, ce côté des vitrines, c'est... Oui, ça les frappe. Hein. C'est tout ce qui frappe les gens venant de pays de l'Est. Hein.
Ouais.
Alors déjà, venant de leur shtetl, ils sont déjà très surpris par ce qui se passe, par exemple, à Varsovie. Mais venant même de Varsovie, ils sont surpris de ce qui se passe à Paris. Et encore plus de ce qui se passe aux
États-Unis.
En particulier, les buildings. Alors ça, les buildings, quand elle arrive aux États-Unis, qu'elle voit ces buildings, ça, il n'y en avait pas du tout en Europe à l'époque. Et donc là, ça la frappe. Bon, je vais encore en lire un. Hein, et puis après, on est déjà à la fin de notre émission. Où dois-je aller maintenant ? Où dois-je aller maintenant ? Paris me rejette comme la mer rejette sur le sable une pierre cassée, comme la rivière rejette un poisson épuisé et la ruche une abeille rebelle. Le train m'emporte, pourquoi tant de hâte ? Je suis comme une lettre que personne ne vient chercher, un salut envoyé comme ça par un fou, non pas vers le champ, ni vers la rivière, ni vers le bleu céleste. Qui a besoin de moi, de mon poème, de mon calme égarement ? Peut-être la neige de ma maison, ou le vent de ma ville, ou peut-être la faim qui gémit maintenant ici et dont je connais la miséricorde. Oui, parce que ça, elle est quand même aussi très sensible à tous ces mendiants qu'elle voit dans la rue, aux sans-abri. Elle a aussi écrit des poèmes là-dessus. Voilà, donc
alors, je vais faire entendre une deuxième chanson, un peu vite, mais quand même, c'est très intéressant. Ça s'appelle « Le jour des cent ». Le jour des cent, qu'y a-t-il de plus clair que le jour ? Un ami disparaît. Ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Sois heureux, mon cœur, sois heureux, quand sous le sable, un rayon de soleil fait briller un diamant. Le jour des cent, qu'y a-t-il de plus clair que le jour ? Un ami disparaît. Ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Réjouis-toi, mon cœur, réjouis-toi, parce que de l'œil noir a jailli la douce lumière. Le jour descend, qu'y a-t-il de plus clair que le jour ? Un ami disparaît, ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Sois heureux, mon cœur, réjouis-toi, quand sur le tas de sable, par hasard, tu te rencontreras avec Dieu. Et voici, là, on va faire entendre la chanson, mais juste un mot sur le fait qu'on joue ce dimanche, à Berchtet, à 18h, aujourd'hui même, donc, puisque l'émission passe le dimanche, à 18h, à Berchtet, dans la salle communale, le spectacle que nous avons créé au mois de juin 2024, Yin in America.
Oui, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir à Strasbourg, venez le voir à Berchtet, ce n'est pas loin. Et voilà. On vous dit shalom aleichem.
Shalom aleichem, et on fait entendre Kadia Molodovsky, et merci Thomas.
Atok forget un vos es lichtiger vetog es geht a freind weg nicht klog mein herz nicht klog und frei sich frei mein herz vos is a mola zand und der strahl von sun gewesen a brillant Tag vergeht und was ist lichtig Kerl wie tot. Es geht der Freund weg, nicht flog mein Herz, nicht flog. Und frei sich frei mein Herz, aus Finsterkeit von euch, hat euch gedacht, der Lichtigkeit getonnen sie zum Sorg. Hat auch vergeht, und was ist lichtiger wie tot? Es geht der Freund weg, nicht klog mein Herz, nicht klog. Und frei sich frei mein Herz, wo so ein Versemdel grob, passiert es zufällig, begegnet sich mit Gott. Was ist lichtiger wie tot? Es geht der Freund weg, nicht klog mein Herz, nicht
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.